Allô docteur. Allô docteur, sur Radio Orient.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du mois du Ramadan. Beaucoup de questions se posent autour du jeûne, de ses effets sur le corps et les précautions à prendre pour vivre ce mois sacré en toute sécurité, notamment pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Pour répondre à toutes ces interrogations, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dr Zineddine Khayat, endocrinologue, qui nous apportera des réponses scientifiques claires et accessibles sur les impacts du jeûne, les risques éventuels et les bonnes pratiques à adopter pendant ce mois béni. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Zohor, shukran ala pour cette invitation, merci beaucoup.
Et je vous transmets les remerciements de beaucoup de nos auditeurs qui vous écoutent et qui apprécient votre façon simple d'aborder des sujets scientifiques, surtout les sujets concernant le diabète.
Merci beaucoup.
Docteur Zineddine Khayat, le jeûne a-t-il un impact sur les maladies de la thyroïde et comment les patients doivent-ils s'organiser ou organiser la prise de leurs médicaments?
C'est-à-dire vous parlez par rapport au Ramadan, c'est ça?
Oui.
Alors, la thyroïde, c'est un organe qui est situé au niveau du cou. C'est un tout petit organe qui pèse à peu près 30 grammes et qui a un rôle énorme par rapport à sa taille, un rôle majeur sur l'équilibre de notre corps. Donc, la thyroïde régule énormément de choses, le poids, elle régule la thermogénèse, ça veut dire elle régule la température du corps, le rythme cardiaque, rythme aussi notre poids, rythme énormément de choses. Si les personnes qui sont traitées par des hormones thyroïdiennes, il faut qu'ils fassent quand même une mesure de leur niveau pour savoir s'ils sont bien équilibrés. Une TSH, je conseille de faire quand même une TSH avant le Ramadan. Par contre, immédiatement après la fin du Ramadan, je déconseille de faire la TSH parce que comme avec les changements, parfois la TSH peut-être n'est pas bien équilibrée. Je conseille d'attendre au moins un mois après le Ramadan pour réévaluer éventuellement la TSH. S'ils ne sont pas bien équilibrés, il faut qu'ils ajustent un petit peu leur traitement avec leur médecin traitant, évidemment. Par rapport à la prise du traitement, parce qu'on conseille toujours les médicaments des hormones thyroïdiennes à prendre à jeun pour qu'il soit mieux absorbé, parce que ce médicament-là, il est mieux absorbé quand il est à jeun. Je rappelle à nos éditeurs que s'ils oublient d'avoir pris à jeun, il faut qu'ils le prennent quand même après. Parce que,
Vous voulez dire le moment de sahur?
Alors, c'est-à-dire soit au moment de sahur.
Quand on se réveille pour prendre
sahur. Quand on se réveille, éventuellement. Ou parfois, pour les gens qui ne se lèvent pas, ça peut être juste avant de se coucher. Mmh. En fait, il faut choisir le moment où on a le ventre un petit peu vide, avec pas trop d'aliments, pour que le médicament soit mieux absorbé. Au moment de l'iftar, vous le prenez avec un bon verre d'eau et attendre un tout petit peu. En théorie, on demande d'attendre entre 15 et 20 minutes ou 30 minutes. Mais bon, avec le Ramadan, c'est difficile d'attendre quand même une demi-heure après le temps. Donc, ce n'est pas absolument pas grave de prendre le médicament au moment de l'iftar et de commencer l'iftar 10 minutes après. Ce n'est pas gênant. Même si on est un tout petit peu déséquilibré, on rattrape après le Ramadan. Ce n'est pas absolument pas gênant.
D'accord. Alors, quelles recommandations, docteur, recommandations nutritionnelles donnez-vous pour un iftar ou un sahur équilibré, adapté aux besoins du corps?
Je donne des conseils pour toutes les personnes et puis après je peux préciser un petit peu en particulier pour les patients diabétiques. Alors en général après une journée de jeûne on est tenté, donc il faut pas non plus faire de la restriction et ne pas se faire plaisir. Je pense qu'il faut se faire plaisir avec des petites choses mais d'une façon modérée. Je pense manger 3-4 dattes c'est tout à fait acceptable, même pour les patients diabétiques, il n'est pas interdit. Donc la chose sur laquelle
vous parlez du diabète type 1 ou type 2?
Les deux.
D'accord.
C'est important que je reviens quand même que le diabète type 1 reste parmi les très hauts risques, voilà, donc c'est déconseillé.
On se concentre plus sur type 2 et 3-4 dates. Pourquoi au début, c'est quoi l'effet sur le corps de manger des dates pendant...
Non, c'est pas obligé que ce soit au début. Hein, mais sauf que
c'est l'habitude que tout le monde a pendant la rupture du jeûne, ils prennent des dates.
Non, moi je ne conseille pas forcément au début, mais... Vous pouvez les manger à la fin, si vous voulez.
D'accord, ça c'est important, parce qu'il y a des habitudes qui ne sont pas bonnes pour la santé.
Parce que beaucoup de gens, nous on a l'habitude de commencer la rupture de jeûne avec un petit peu de quelques dates pour remplir
le jeûne. Si on est en bonne santé, ce n'est pas grave, mais si on a des problèmes de santé, il faut faire attention.
Moi d'ailleurs, je conseille tout ce qui est sucrerie de plutôt le laisser à la fin, si c'est possible. Je conseille de boire de commencer avec un petit peu d'eau au départ, après une soupe qui contient, comme ça permet de s'hydrater.
Et le lait fermenté, qu'est-ce que vous en pensez au début
de... en petite quantité, ce n'est absolument pas
interdit. Là, je pose la question parce que c'est des habitudes que je connais chez les gens.
Bien sûr, vous pouvez boire un verre de lait, ce n'est pas un problème. Moi, ce que je déconseille, c'est de ne pas abuser des jus de fruits. Et surtout pas de boisson gazeuse sucrée, ça c'est très important d'éviter pour les patients. Et faire un repas normal en fait, vous commencez avec quelques dates, après une soupe, après on mange un peu de protéines, un peu de légumes, un peu de féculents, et puis manger doucement, c'est-à-dire lentement, c'est-à-dire apprécier l'alimentation dans la bouche, la sentir et continuer à sentir tout doucement, apprécier ce qu'on mange et manger tout doucement, parce que ne pas manger devant les écrans aussi, c'est très important, ne pas faire l'iftar devant la télé, parce que on n'apprécie pas ce qu'on mange et on ne se rend pas compte et on ne sent pas la satiété.
Et ça a un mauvais impact sur le corps aussi, scientifiquement.
Et terminer par des fruits. Et je conseille aussi de sortir après manger, de faire une petite marche, ou pour les gens qui font la prière, de faire Tarawih, parce que ça permet un peu d'avoir un peu d'activité physique, et ça, c'est très intéressant sur le plan santé.
Docteur Zinedine Khayat, le jeûne a-t-il un impact sur les maladies de la thyroïde, et comment les patients doivent-ils s'organiser ou organiser la prise de leurs médicaments?
C'est-à-dire, vous parlez par rapport au ramadan, c'est ça?
Oui.
Alors, la thyroïde, c'est un organe qui est situé au niveau du cou. C'est un tout petit organe qui pèse à peu près 30 grammes et qui a un rôle énorme par rapport à sa taille, un rôle majeur sur l'équilibre de notre corps. Donc, la thyroïde régule énormément de choses, le poids, elle régule la thermogénèse, ça veut dire elle régule la température du corps, elle régule le rythme cardiaque, rythme aussi notre poids, rythme énormément de choses. Si les personnes qui sont traitées par des hormones thyroïdiennes, il faut qu'ils fassent quand même une mesure de leur niveau pour savoir s'ils sont bien équilibrés. Une TSH, je conseille de faire quand même une TSH avant le ramadan. Par contre, immédiatement après la fin du ramadan, je déconseille de faire la TSH parce que comme avec les changements, parfois la TSH peut-être n'est pas bien équilibrée. Je conseille d'attendre au moins un mois après le ramadan pour réévaluer éventuellement la TSH. S'ils ne sont pas bien équilibrés, il faut qu'ils ajustent un petit peu leur traitement avec leur médecin traitant, évidemment. Par rapport à la prise du traitement, parce qu'on conseille toujours les médicaments des hormones thyroïdiennes à prendre à jeun pour qu'il soit mieux absorbé, parce que ce médicament-là, il est mieux absorbé quand il est à jeun. Je rappelle à nos éditeurs que s'ils oublient d'avoir pris à jeun, il faut qu'ils le prennent quand même après. Parce que,
vous voulez dire le moment de suhoor?
Alors, c'est-à-dire soit au moment de suhoor.
Quand on se réveille pour prendre
suhoor. Quand on se réveille, éventuellement. Ou parfois, pour les gens qui ne se lèvent pas, ça peut être juste avant de se coucher. Mmh. En fait, il faut choisir le moment où on a le ventre un petit peu vide, avec pas trop d'aliments, pour que le médicament soit mieux absorbé. Au moment de l'iftar, vous le prenez avec un bon verre d'eau et attendre un tout petit peu. En théorie, on demande d'attendre entre 15 et 20 minutes ou 30 minutes. Mais bon, avec le ramadan, c'est difficile d'attendre quand même une demi-heure après le temps. Donc, ce n'est absolument pas grave de prendre le médicament au moment de l'iftar et de commencer l'iftar 10 minutes après, ce n'est pas gênant. Même si on est un tout petit peu déséquilibré, on rattrape après le ramadan, ce n'est pas, absolument pas gênant.
D'accord. Alors, quelles recommandations, docteur, recommandations nutritionnelles donnez-vous pour un iftar ou un sahur équilibré, adapté aux besoins du corps?
Je donne des conseils pour toutes les personnes et puis après, je peux préciser un petit peu, pour les, en particulier pour les patients diabétiques. Alors, en général, après une journée de jeûne, on est tenté. Donc, il ne faut pas non plus faire de la restriction et ne pas se faire plaisir. Je pense qu'il faut se faire plaisir avec des petites choses, mais d'une façon modérée. Je pense manger 3-4 dattes, c'est tout à fait acceptable, même pour les patients diabétiques, il n'est pas interdit. Donc, la chose sur laquelle...
Vous parlez du diabète type 1 ou type 2?
Les deux. C'est important que je reviens quand même que le diabète type 1 reste parmi les très hauts risques.
Voilà, donc on se concentre plus sur type 2 et 3-4 dattes. Pourquoi au début, c'est quoi l'effet sur le corps de manger des dattes pendant...
Non, c'est pas obligé que ce soit au début. Mais sauf que
L'habitude que tout le monde a pendant la rupture du jeûne, ils prennent des dattes.
Non, moi je ne conseille pas forcément au début, mais... Vous pouvez les manger à la fin, si vous voulez.
Ah, d'accord. Ça, c'est important, parce qu'il y a des habitudes qui ne sont pas bonnes pour la santé.
Parce que beaucoup de gens, nous, on a l'habitude de commencer la rupture de jeûne avec un petit peu de quelques dates pour remplir
le jeûne. Si on est en bonne santé, ce n'est pas grave. Mais si on a des problèmes de santé, il faut faire attention.
Moi, d'ailleurs, je conseille tout ce qui est sucrerie de plutôt le laisser à la fin, si c'est possible. Je conseille de commencer avec un petit peu d'eau au départ, après une soupe qui contient, comme ça permet de s'hydrater.
Et le lait fermenté, qu'est-ce que vous en pensez au début
de... en petite quantité, ce n'est absolument pas
interdit. Là, je pose la question parce que c'est des habitudes que je connais chez les gens.
Bien sûr, vous pouvez boire un verre de lait, ce n'est pas un problème. Moi, ce que je déconseille, c'est de ne pas abuser des jus de fruits. Et surtout pas de boissons gazeuses sucrées, ça c'est très important d'éviter pour les patients. Et faire un repas normal en fait, vous commencez avec quelques dattes, après une soupe, après on mange un peu de protéines, un peu de légumes, un peu de féculents, et puis manger doucement, c'est-à-dire lentement, c'est-à-dire apprécier l'alimentation dans la bouche, la sentir et continuer à sentir tout doucement, apprécier ce qu'on mange et manger tout doucement, parce que il ne pas manger devant les écrans aussi, c'est très important, ne pas faire l'iftar devant la télé, parce que on n'apprécie pas ce qu'on mange et on ne se rend pas compte et on ne sent pas la satiété.
Et ça a un mauvais impact sur le corps aussi, scientifiquement.
Et terminer par des fruits. Et je conseille aussi de sortir après manger, de faire une petite marche, ou pour les gens qui font la prière, de faire tarawih, parce que ça permet un peu d'avoir un peu d'activité physique, et ça, c'est très intéressant sur le plan santé.
Docteur, existe-t-il des bénéfices scientifiques prouvés du jeûne sur la santé, et si oui, lesquels?
Les personnes qui ne sont pas diabétiques, et il paraît que le jeûne améliore pas mal de paramètres de santé, que ça a été prouvé. Il y a une diminution du cholestérol, il y a une augmentation de le HDL, qui est le bon cholestérol. Il y a une amélioration de beaucoup de paramètres métaboliques. Chez les patients diabétiques, ça reste un petit peu discuté. C'est pas complètement tranché qu'il y a un bénéfice vraiment important chez les patients diabétiques. Donc, il y a des études qui montrent qu'il y a un bénéfice, effectivement. Il y a des études qui montrent un peu l'inverse. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de bénéfice tranché sur le... Maintenant, je pense, vu la variété de patients et et beaucoup de modes de vie de différents peuples, c'est vrai qu'on a chacun sa façon de manger, chacun sa façon. Je pense que quand on fait un jeûne et qu'on fait une rupture de jeûne avec un repas équilibré, je pense qu'on en tire un bénéfice. Par contre, les patients qui mangent très mal le soir et qui se gavent un peu quelque part, je ne pense pas qu'ils en tirent un bénéfice.
Ils gâchent l'effort qu'ils ont fait toute la journée, malheureusement. Docteur, comment les personnes souffrant d'obésité ou de résistance à l'insuline peuvent-elles tirer profit du jeûne sans mettre leur santé en danger?
L'obésité, vous savez qu'actuellement, c'est un peu, je dirais, entre guillemets, à la mode, parce que Malheureusement, surtout dans nos pays, les pays occidentaux, et même dans les pays d'Afrique du Nord et tout ça, l'obésité est devenue une maladie épidémique, c'est-à-dire c'est en augmentation d'une façon très très importante. On considère que aux États-Unis et en France, qu'il y a un patient sur deux qui est au moins en surcharge pondérale, et il y a plus que autour de 20% d'obèses en France, et autour entre 18 et 20% d'obèses. Donc, c'est hyper fréquent. Les patients, déjà en dehors du ramadan, ce que je conseille aux patients qui sont obèses, c'est absolument d'éviter les régimes. Les régimes qui sont souvent dans les réseaux sociaux et tout ça, les régimes ne vous font que vous faire grossir. Donc, tous les régimes que vous voyez, le régime hyperprotéiné, ces régimes-là sont très souvent, malheureusement, restrictifs. Alors, ils vous font plaisir, en fait, et vous allez très vite, très content, parce que vous perdez très vite, et vous allez diffuser cette information à beaucoup de personnes autour de vous qui vont faire la même chose, et tout le monde est content pour la perte de poids, mais très vite, vous reprenez plus de poids ce que vous avez perdu, et finalement, à force de faire des régimes, vous devenez de plus en plus obèse. Donc, évitez absolument, je conseille d'éviter le régime. Si même, je conseille très fortement de se réconcilier avec l'alimentation et que l'alimentation devient un plaisir. Il ne faut plus culpabiliser par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire manger, faites-vous plaisir en mangeant doucement et tranquillement. Et même si vous mangez quelque chose qui ne vous paraît pas conseillé, ce n'est pas grave. Faites-le doucement et faites-le avec plaisir, appréciez ce que vous mangez. Ce que je conseille, c'est d'équilibrer l'alimentation au lieu de faire des régimes. C'est de manger, écouter votre corps. Si vous avez faim, vous mangez. Vous avez le droit de manger quand vous avez faim. Par contre, si vous n'avez pas faim, il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger par émotion. Par manger, éviter les grignotages. Vous savez, quand vous avez une petite faim irrésistible, ça ne dure pas longtemps. En fait, ça dure 10 minutes. Vous sortez, vous marchez un petit peu, vous prenez un verre d'eau et ça passe. Vous n'avez pas très faim. Par contre, équilibrez votre alimentation. C'est très important d'éviter les produits transformés. Tous les produits transformés dans les paquets, évitez les boissons sucrées, les jus de fruits, tout ça. Évitez les fritures. En fait, quand on veut manger équilibré, il faut manger des aliments de base. Ça veut dire manger des légumes, des fruits. C'est pas interdit les féculents, les pâtes, le riz, le pain, de préférence du pain.
Mais on doit faire attention à la quantité quand même.
Bien sûr, il faut pas se resservir. Et quand on mange lentement, on a la satiété vite fait. Quand on mange vite, qu'on mange plusieurs fois.
Et quand on mange sucré, il y a toujours cette demande de sucre du cerveau. Donc, bien c'est ça sûr. Qui donne envie de manger
sucre,
plusieurs fois.
Le sucre, c'est une vraie drogue, en fait. Ça vous donne une dépendance énorme. Plus vous mangez sucré, plus vous avez envie de manger sucré. Et le sucre appelle le sucre. Et quand vous ne mangez pas de sucre, vous n'êtes pas très tenté, en fait. C'est très difficile de se sevrer du sucre. Hein. Il faut de la volonté. Mais après, le sucre rapide n'a pas de place dans notre alimentation normalement, ou alors exceptionnellement.
On va passer à quelques questions des auditeurs. J'ai souvent de baisses de tension pendant la journée, pendant le mois de Ramadan. Est-ce que le jeûne peut aggraver ce problème?
Oui, la baisse de tension est possible parce que, évidemment, d'ailleurs, je conseille, parce que je ne l'ai pas assez dit, pendant le Ramadan, c'est-à-dire de la période où on mange, de bien s'hydrater. L'hydratation est très, très importante. D'ailleurs, même au cours de la nuit, je conseille très fortement d'avoir une bouteille d'eau ou une carafe d'eau à côté de son lit pendant la nuit, de boire aussi beaucoup à chaque fois qu'on est réveillé, de boire beaucoup pour se protéger. Parce que c'est vrai que la déshydratation crée ce qu'on appelle l'hypovolémie et ça peut baisser un petit peu la tension artérielle, surtout en plus chez les personnes qui sont traitées par des médicaments pour la tension artérielle. Donc c'est possible que la tension baisse un petit peu. Mais si ça reste dans des chiffres acceptables, je veux dire quelqu'un qui a 10 de tension,